commence par le journal de Claire Flauchel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'heure des réquisitions aujourd'hui au procès France Télécom. Après le dernier jour des plaidoiries hier, l'entreprise et ses anciens dirigeants jugés pour harcèlement moral après les dizaines de suicides de ses salariés à la fin des années 2000. 39 parties civiles retenues, mais c'est l'ensemble des salariés qui ont été affectés par la politique de France Télécom, selon une avocate de la partie civile, vous l'entendrez.
Le stress pour les 743 000 candidats à quelques heures des résultats du bac en raison de la grève des correcteurs.
Le ministère de l'Éducation nationale assure qu'il y aura deux listes affichées, les résultats définitifs et les résultats provisoires. Ce sont des notes factices, dénonce le syndicat SNES-FSU. Jean-Michel Blanquer, lui, accuse les grévistes d'être des pompiers pyromanes. Les États-Unis ont tout inventé ou presque. Donald Trump a célébré en grande pompe le 4 juillet, la fête nationale américaine. Le chef de la Maison-Blanche a utilisé ses thèmes de prédilection en évoquant une nation plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Un immense accident du travail organisé par l'employeur, l'une des phrases prononcées hier au dernier jour des plaidoiries des parties civiles du procès France Télécom, procès inédit pour harcèlement moral de ses ex-dirigeants. Le tribunal a analysé les cas de 39 parties civiles, parmi elles 19 se sont suicidées. France Télécom et ses anciens dirigeants qui voulaient supprimer des milliers d'emplois ont-ils mis en place une politique visant à déstabiliser les salariés? C'est certain, selon Maître Sylvie Topaloff, l'une des avocates de la partie civile.
France Télécom n'est pas poursuivie pour avoir commis des actes d'homicide involontaire sur les personnes qui se sont suicidées. Autrement dit, les suicides qui sont évoqués ne sont pas causés directement et exclusivement par France Télécom. La seule question qui est posée au tribunal est de savoir si du harcèlement moral a été commis sur ces personnes, c'est-à-dire des agissements répétés qui ont eu pour effet de dégrader la santé psychique des personnes qui se sont suicidées. Et donc, ce terrain du harcèlement moral n'implique pas que nous ayons à déterminer que le suicide est uniquement causé par France Télécom. Et donc, d'une certaine façon, les suicides, de la même façon qu'ils ont alerté l'opinion publique sur ce qui se passait, sont dans le dossier pénal une indication, un indicateur, un révélateur de la politique plus générale qui s'était mise en place à France Télécom. C'est une façon de dire aussi que le préjudice subi ne se limite pas aux 39 personnes qui se sont suicidées, qui ont fait des tentatives de suicide. Le harcèlement moral, dans la mesure où il s'agit d'une politique générale, a visé beaucoup plus de gens que ces 39 personnes. Et on peut considérer que l'ensemble du personnel a été affecté par cette politique.
Qu'est-ce que vous, qui connaissez très bien le dossier, vous avez appris au cours de ces deux mois d'audience ?
J'étais très frappée par les dénégations des prévenus, par leur refus d'entendre des faits qui étaient incontestables. On a l'impression que cette crise des suicides, au fond, pour eux, c'est un événement médiatique. Il n'y a même pas eu de crise sociale. Il y a une crise des suicides qui n'en est pas eu, une crise sociale. Alors qu'est-ce qui reste ? C'était une crise médiatique, en fait, il ne s'est rien passé. Ça ressemblait quand même à ça.
Propos recueillis par Antoine Marette et cet après-midi place donc aux réquisitions des deux procureurs. Une démonstration de force du mathématicien Cédric Villani à moins d'une semaine de la décision d'En Marche pour l'investiture de son candidat à la mairie de Paris. Le député qui fait partie des favoris avec l'ex-porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a été acclamé hier soir par 400 personnes au théâtre du Gymnase à Paris où il tenait meeting. Stéphane Robert y était pour France Culture.
Un accueil en fanfare hier soir pour Cédric Villani au théâtre du Gymnase à Paris. Dans la salle, près de 400 personnes venues l'applaudir et sur scène pour le soutenir, des scientifiques comme le physicien Étienne Klein.
Cédric, je pourrais évidemment parler de ses travaux de scientifiques qui sont exceptionnels. On a la même équation préférée tous les deux, qui est l'équation de Boltzmann. C'est une équation de physique. Mais si je le soutiens, c'est évidemment parce qu'il n'est pas que mathématicien. Je trouve que c'est un génie de la politique.
Autour de lui, il y avait aussi des responsables politiques, notamment celui qui a renoncé il y a deux jours à être candidat pour lui apporter son soutien, l'ex-secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi.
Avec Cédric, de mois en mois, on s'est rendu compte qu'on était très d'accord sur de nombreuses choses, à la fois sur les problèmes existants, mais aussi sur les solutions qu'on pouvait apporter.
Et sur le diagnostic comme sur les solutions qu'il entend apporter, Cédric Villani a prononcé un long discours préconisant à la fois une méthode.
Paris a besoin de rigueur.
Et des objectifs ambitieux, notamment faire de Paris une ville championne de l'environnement.
Je veux être le premier maire écologiste de Paris. Il nous faut renouer avec une politique extrêmement audacieuse d'espace vert pour transmettre à nos enfants et générations futures Une ville respirable, durable, en un mot, vivable.
Dans la salle, malgré la chaleur et un discours d'un peu plus d'une heure trente, le public semble conquis.
Par rapport à ce qui se dessine dans le paysage politique aujourd'hui, c'est vraiment un candidat à part. Peut-être qu'il va apporter un côté peut-être plus pragmatique, un peu moins politique, mais peut-être plus rationnel.
Ce qui était frappant hier soir, au-delà de l'enthousiasme de l'auditoire, c'est la détermination de Cédric Villani, comme s'il n'était pas seulement candidat à l'investiture de son parti La République En Marche, mais déjà un candidat en campagne avec Paris en ligne de mire.
Un reportage signé Stéphane Robert. Les résultats du bac seront affichés dès 8h dans l'académie d'Aix-Marseille et Poitiers, 8h30 à Lyon et Orléans. Hier soir, près de 700 professeurs, selon Jean-Michel Blanquer, refusaient toujours de délivrer les notes et les copies. Pourtant, il n'y aura aucune rupture d'égalité. Tous les élèves auront leurs résultats aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation l'assure. Certains professeurs évoquent pourtant des jurys largement perturbés avec parfois même des notes inventées. Écoutez la réponse du ministre.
J'ai vu une série d'affirmations qui sont fausses. J'ai vu des gens faire un peu les pompiers pyromanes, c'est-à-dire être à l'origine des problèmes et ensuite dire « c'est quand même incroyable, il y a des problèmes ». Oui, bien sûr, ils ont créé des problèmes. Je ne le nierai pas, il y a environ une centaine de centres sur 1500 où il y a eu des problèmes. C'est-à-dire que vous avez eu le cas de personnes qui, voyant qu'elles étaient impuissantes pour troubler le baccalauréat, ont décidé de gêner le fonctionnement des jurys. C'est évidemment tout à fait condamnable. C'est un sujet qu'on regardera en son temps, parce que quand on est fonctionnaire, on a des devoirs, on n'a pas que des droits. Il y a, encore une fois, des jurys souverains qui respectent des règles. Donc les notes qui sont données le sont sur des bases sérieuses. Et je ne laisserai pas dire que le baccalauréat est dévalorisé de ce fait. Il est très étonnant de voir des personnes qui affirment vouloir défendre le baccalauréat au titre du mouvement qu'ils font, chercher à répandre des nouvelles parfois fausses qui contribuent à éventuellement dévaloriser le baccalauréat.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Un examen du bac 2019 décidément chaotique dans l'académie de Lille hier soir. Les notes auraient fuité brièvement dans la soirée. Les lycéens ont pu consulter leurs résultats au moins pendant quelques minutes. Les autorités ne le confirment pas, mais les témoignages étaient nombreux sur Internet hier soir.
7h07, Claire Floch, à la suite de votre journal, avec un 4 juillet comme les Américains ne l'avaient jamais vu. C'était l'ambition de Donald Trump, très impressionné par le défilé du 14 juillet à Paris.
Et le président des États-Unis a vu grand pour la fête de l'indépendance américaine, des chars d'assaut en exposition et des chasseurs en démonstration dans le ciel de Washington. Et puis un discours hier soir au pied du mémorial de Lincoln, discours patriotique s'il en est, dans lequel Donald Trump a énuméré tout ce que les États-Unis ont pu inventer dans un interminable inventaire à l'après-Vert.
La créativité, l'ingéniosité de notre nation ont mené à la création des spectacles de Broadway au cinéma d'Hollywood. Nous avons rempli les salles de spectacle et les antennes de radio du monde entier avec le jazz, l'opéra, la country music, le rock and roll et le rhythm and blues. On a inventé le musical, les films, les westerns, le baseball, le Super Bowl, les gratte-ciels, les ponts suspendus, les usines automobiles. Et aujourd'hui, notre nation est plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Notre pays est au plus haut.
Donald Trump. Peut-être un nouvel épisode dans la guerre à distance entre les États-Unis et l'Iran. Un navire a été arrêté à 4 km au sud de Gibraltar. Ce bateau transportait visiblement du pétrole iranien à destination de la Syrie, en violation donc des sanctions européennes contre le régime de Bachar el-Assad. Christian Chesneau.
Après les récents incidents dans le golfe Persique, la bataille navale entre Américains et Iraniens s'est déplacée en Méditerranée. Cette fois, c'est un pétrolier iranien qui est impliqué. Le Grâce 1, battant pavillon panaméen, a été arraisonné par les autorités de Gibraltar à quelques kilomètres de l'enclave britannique. Une opération effectuée à la suite d'une demande de Washington adressée à Londres, assure-t-on au ministère espagnol des Affaires étrangères. Le tanker de 300 000 tonnes qui avait chargé sa cargaison de pétrole en Iran le 17 avril dernier faisait route vers la raffinerie de Banias en Syrie, pays sous sanction de l'Union européenne depuis le début du soulèvement populaire de 2011. L'Iran a dénoncé cette interception qu'il a qualifiée d'illégale. Cet incident naval s'inscrit dans la stratégie de pression maximale des États-Unis vis-à-vis de Téhéran et de ses alliés régionaux. Les services américains font la chasse aux pétroliers iraniens et les surveillent de très près, car pour Washington, plus une goutte de brut de la République islamique ne doit désormais être exportée.
Le raisonnement de ce pétrolier est une excellente nouvelle, réagit le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton, sans confirmer que les États-Unis avaient demandé l'interception de ce navire. Le temps est bien estival ce vendredi, un beau soleil partout à part sur la façade atlantique où le ciel est mitigé, avec des averses de la Bretagne au Pays Basque. Les températures ce matin sont fraîches sur les côtes de la Manche et la moitié nord. Il fait de 11 à 16 degrés sur la moitié sud, comptait entre 17 et 24 degrés.